Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
Avec Annalisa Capellini, nous recevons Thierry Kovic, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. On pourrait parler évidemment de la nécessité et de l'utilité de ces G7, mais là c'est vrai qu'on voit des résultats quand même, Thierry Kovic, avec ce protocole d'accord signé cette nuit par les présidents américains et iraniens pour tenter de mettre fin à ce conflit au Moyen-Orient. Signature à distance pour le moment, mais c'est fait. Alors on entend beaucoup dire que c'est un accord à l'avantage des Iraniens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Pas vraiment, parce que c'est souvent dit par ceux qui ne pensent qu'avec l'Iran, il faut utiliser la manière forte, c'est-à-dire la guerre. Donc je me méfie un petit peu de ce type de propos. Ce qui est clair, c'est qu'entre les objectifs affichés par Donald Trump, rappelez-vous, le premier jour de la guerre et ce à quoi il est arrivé, bon, ma première réaction, c'était tout ça pour ça. Finalement, il revient à négocier sur le nucléaire iranien, ce qu'il était en train de faire avant cette guerre, même ce qu'ils avaient fait avant les deux guerres que Israël et les États-Unis ont commencé. Donc, effectivement, il a atteint aucun de ses objectifs. Il faut quand même lui reconnaître la capacité de voir qu'il s'était trompé et de rentrer dans des négociations sérieuses avec l'Iran. C'est ça le fait principal.
Tout à l'heure, Antoine Lard disait depuis Washington que ses détracteurs à Trump disaient qu'on était revenu à la situation d'avant-conflit en pire, avec des fonds en plus pour l'Iran. Est-ce que c'est juste de dire ça?
Des
fonds en plus, de l'argent en plus.
Oui, non, mais c'est ce que je vous dis. Effectivement, il était sur une logique quand même largement, on le sait maintenant, conseillée par Netanyahou et les néo-conservateurs américains, notamment le sénateur républicain Lindsey Graham. Dire l'idée, c'est qu'avec l'Iran, ils sont dans une position de faiblesse, c'est le moment de les attaquer et on va atteindre tous nos objectifs, le changement de régime, l'arrêt du programme balistique, l'arrêt du programme nucléaire. C'était une sorte de fantaisie complète, et je pense qu'il a compris qu'il s'était engagé dans, il s'était fourvoyé. Alors, il y a l'histoire de la fermeture des Détroits d'Hormuz. Là, je pense qu'il avait vraiment pas écouté ses conseillers. Donc, il s'est quand même rendu compte assez rapidement qu'il était dans une impasse. Et effectivement, on peut toujours le critiquer sur le fait qu'il engage dans des vraies négociations avec l'Iran, mais je pense que c'est la bonne méthode. La méthode forte n'a pas marché. Donc, au moins, il faut lui reconnaître cette capacité à comprendre s'il s'est trompé et il s'engage dans des vraies négociations, parce qu'avant il parlait de capitulation, Donald Trump. Hein.
Ouais.
Dans des vraies négociations, ben, vous donnez, vous prenez, donc on va voir ce qui va se passer, parce que c'est pas fini. Hein. Dans 60 jours, on va voir, chaque pays, chaque partie devra faire des concessions pour obtenir des avantages, ça s'appelle des négociations.
Annalisa.
Thierry Kovic, au cours du conflit, le régime iranien a quand même souffert par moment parce qu'il était ciblé directement par les frappes. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'est plutôt stabilisé. Est-ce qu'il est quand même affaibli?
Oui, alors je pense que le régime iranien, et ça se dit en Iran, mais je pense que tous les observateurs le voient, c'est qu'ils ont quand même résisté à une attaque surprise en dehors, rappelons-le, dehors de tout respect du droit international, par la première puissance militaire mondiale, la première puissance militaire du Moyen-Orient. Donc ils ont résisté beaucoup mieux ce que l'on pensait. Ils ne sont pas effondrés. Et par certains côtés, par exemple sur le plan politique, il y a quand même une remontée d'un nationalisme en Iran. Certains Iraniens demandaient ces attaques, hein, au début de la guerre. Hein. Mais devant l'ampleur des destructions, les propos de Donald Trump quand il dit « je vais détruire la civilisation iranienne », donc je pense qu'il y a une prise de conscience en Iran que c'est le pays qui est en jeu, c'est l'Iran, c'est pas la République islamique d'Iran. Donc je pense qu'il y a une sorte de résurgence du nationalisme dont le régime bénéficie. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'ils sont renforcés. D'un autre côté, les destructions économiques, enfin les destructions des infrastructures sont telles, je parle de 25 000 bombes qui sont tombées sur l'Iran en deux mois. Enfin, les dirigeants iraniens parlent de 300 milliards de dollars de dégâts. Donc, l'économie dans un état catastrophique. Donc, c'est difficile de parler de victoire de l'Iran, mais c'est sûr qu'ils ont beaucoup mieux résisté que certains pensaient.
On parlait de ces 60 jours de négociations, il y a plusieurs dossiers sur la table, plusieurs choses à défendre. Qu'est-ce qui est le plus important en Iran? Parce que tout le monde ne va pas avoir tout ce qu'il veut. Est-ce que c'est cette levée des sanctions? Est-ce que c'est un accord favorable sur le nucléaire? Est-ce que c'est ce fonds, justement, de 300 milliards débloqué pour la reconstruction?
Écoutez, les deux, c'est ça qu'aussi, bon, c'est vrai, je vous dis tout ça pour ça, mais c'est quand même les deux points sur lesquels on négocie quand même. Il y a eu déjà des négociations sur ces sujets, si vous voulez, avant la guerre des 12 jours et avant cette guerre des 40 jours. Donc, les deux points principaux, du côté américain, ils veulent des garanties que le programme nucléaire iranien reste civil. Alors, la question des capacités d'enrichissement d'uranium de l'Iran, parce que c'est ça qui donne l'accès à la bombe atomique. Du côté iranien, ils veulent, en échange, s'ils font des concessions dans ce domaine-là, avoir une levée la plus globale possible des sanctions.
Il y a la question de la population civile iranienne aussi qui a beaucoup souffert pendant le conflit. C'est encore difficile aujourd'hui d'avoir des informations précises puisque le régime maintient une pression stricte sur les informations, sur tout ce qui sort. Quelle est aujourd'hui la situation des civils en Iran?
Alors, il y a quand même, il commence à y avoir une réouverture d'Internet, donc on commence à avoir plus d'informations.
On n'aura sans doute jamais toutes les informations sur
ce qui s'est passé. On va savoir peut-être ce qui s'est passé. C'est sûr qu'il y a, un mélange de... Certains Iraniens sont quand même contents, parce que ça leur donne une perspective. Là, ils étaient dans une impasse, une attaque militaire. Alors, certes, il y a eu un réflexe nationaliste, mais l'idée, l'économie va très très mal. On parle de 2 millions de personnes qui auraient perdu leur emploi pendant ce conflit. L'inflation, dévoilé les derniers chiffres, je crois que c'est carrément 80%. Les chiffres de avril-mai en Iran, parce qu'il y a un décalage avec les mois, donc 80% d'inflation, donc là on rentre dans quelque chose. Le FMI prévoit 70% d'inflation pour l'Iran en 2026. Donc la situation économique catastrophique. Beaucoup d'Iraniens n'arrivent pas à avoir assez de calories par jour. Donc il y a un peu d'optimisme, dans le sens on voit une sortie de crise. Je pense qu'ils attendent de voir... Je pense après, si l'Iran peut vendre tout son pétrole, et ça c'est très important, avec une suspension des sanctions, d'après ce que j'ai compris, même dans le protocole d'accord. Donc l'Iran va avoir plus de rentrées de devises, donc a priori ça devrait permettre de stabiliser le taux de change, d'avoir un déficit budgétaire moins important, ce qui veut dire moins de création monétaire et moins d'inflation. Donc ça devrait donner un petit répit à la population iranienne. Mais d'un autre côté, on en revient aux questions principales. On va voir l'accord final. S'il y a un accord final et des vraies levées des sanctions qui soit définitive, là, ça peut être une excellente nouvelle pour l'économie iranienne, notamment qu'elle puisse plus s'intégrer à l'économie mondiale.
On peut estimer de combien d'années elle a reculé pendant ces 40 jours, cette économie iranienne ?
C'est difficile à dire, mais si vous voulez, le FMI prévoit en 2026 une récession de près de 7%. Donc c'est quand même une récession de 7%, c'est énorme. Il y avait déjà une petite récession en 2025 à cause déjà de la guerre. Donc il faut voir que l'Iran, l'économie iranienne, vient d'encaisser le choc externe de deux guerres. Hein. Oui. Donc il y a ça, alors qu'il y a un impact sur le chômage, mais le principal problème, c'est l'inflation. Déjà, du fait des sanctions, il y avait quasiment 15 ans d'inflation à 40%. Donc on sait qu'on parle d'un taux de pauvreté qui atteindrait déjà 40%, si ce n'est plus. Alors là, vous imaginez, l'inflation passe de 40% à 80%. Donc effectivement, là il y a, on va dire, une partie de la population iranienne à la tête sous l'eau du fait de l'inflation, c'est clair.
Merci beaucoup, Thierry Coville, d'être venu nous voir ce matin, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran.